Peut-être que la plupart d'entre vous le savent, mais nous sommes ici dans l'antenne belge de l'école de méditation qui a été fondée par Fabrice Midal en France il y a plus d'une quinzaine d'années. Et sans doute certains d'entre vous ont eu l'occasion de goûter un peu de ce que c'était que la transmission de la pratique au sein de l'école à partir des cours en ligne et des cours à distance. Et donc voilà, c'est quand même bien d'avoir aussi une transmission en direct, donc bienvenue à vous. Donc comme Jeanne l'a dit, on va commencer par une pratique de méditation guidée et on va faire ce soir une pratique qu'on appelle la pratique de Foutez-vous la paix. Donc peut-être que certains la connaissent et puis si vous ne la connaissez pas, il n'y a aucun problème, je vous propose juste de me suivre. On va commencer. Donc, je vais commencer la pratique par un coup de gong et la terminer aussi pour un coup de gong. Je vous invite simplement à vous asseoir bien au milieu du coussin. Asseyez-vous là simplement, sans même essayer de méditer ou de prendre une posture particulière. Juste asseyez-vous sans vous prendre la tête. Ne vous demandez pas si votre posture est bonne ou pas. Ça n'a vraiment aucune importance. Là, ce soir, il n'y a aucune règle, aucune consigne particulière pour la posture. Peu importe comment sont vos mains, moi je les mets sur les cuisses parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Puis je me tiens droite parce que pour moi c'est plus facile, mais vous sentez-vous vraiment libre de faire comme vous sentez. Vous préférez laisser les yeux ouverts ou les fermer, faites à votre guise. Vous asseyez simplement là où vous êtes, comme vous êtes ce soir. Vous pouvez entièrement vous autoriser à être comme vous êtes, sans rien chercher de particulier. Si vous êtes en forme, vous pouvez vous asseoir là où vous êtes en forme. Si vous êtes fatigué, asseyez-vous juste là où vous êtes fatigué. Si vous êtes angoissé, asseyez-vous là où vous êtes angoissé. Peut-être qu'il n'y a pas de nom précis, ça n'a vraiment pas d'importance, juste vous asseyez dans l'expérience qui est là pour vous ce soir. Et vous n'avez absolument rien à faire. Vous ne cherchez pas à vous détendre ou à vous calmer. ou à ne pas avoir de pensée. Vous pouvez entièrement vous autoriser à ne rien faire. Il n'y a rien à apprendre, rien à rechercher. Il n'est pas nécessaire de juger son expérience, ni de l'évaluer, ni même de corriger quoi que ce soit. Vous pouvez simplement vous foutre la paix. Si vous avez des émotions, des pensées, des sensations dans le corps, vous ne rejetez rien, c'est juste là, ce qui est là pour vous ce soir. Maintenant, sans rien avoir à faire, vous pouvez simplement remarquer que vous écoutez tous les sons et les bruits qui viennent de l'extérieur. On entend les oiseaux du soir. Vous entendez ma voix. Peut-être quelques mouvements dans la salle. Et sans effort, vous êtes d'emblée au monde grâce à l'écoute. Entièrement relié à tout ce qui est là. Nous pouvons faire la même chose pour le toucher. Vous pouvez sentir les différentes sensations de vos vêtements sur le corps, les différentes textures. Ce n'est pas du tout la même sensation entre la peau et le pantalon, la peau et le t-shirt. Là aussi, ça ne demande pas d'effort, c'est un sens tout simple. Peut-être que vous sentez l'air sur votre peau aussi. Maintenant, vous pouvez faire la même chose avec la vue. Ceux qui ont les yeux ouverts, mais vous distinguez les couleurs des coussins, le dos des pratiquants devant vous, peut-être aussi sur les côtés. La luminosité. Peut-être si vous avez les yeux fermés, vous pouvez quand même voir la différence de luminosité vers le haut, vers le bas. Et aussi, il n'y a pas besoin de vouloir voir, juste vous voyez d'emblée, sans effort. Et vous pouvez vous laisser imprégner de ce que vous voyez entièrement, toutes ces couleurs, ces formes. Sans que vous ayez rien à faire, vous êtes d'emblée en rapport avec toutes ces perceptions sensorielles qui sont diverses, multiples, qu'on ne peut pas manipuler, qui sont juste là. Et qui nous ouvrent au monde, au lieu dans lequel nous sommes, au moment de la journée dans lequel nous sommes. C'est très vivant. Tout simplement, sans avoir à forcer quoi que ce soit. Ensuite, nous pouvons faire un pas en plus. Et porter notre attention légèrement sur la respiration. Vous pouvez sentir le mouvement de la respiration dans votre poitrine, peut-être dans votre ventre. Et là non plus, il n'y a rien à faire, rien à modifier, rien à changer ou à transformer. Ce mouvement est tel qu'il est pour vous, là maintenant. Vous pouvez sentir l'air qui entre et qui aère tout l'intérieur de votre corps, qu'il vivifie, qu'il lui donne de l'espace, qu'il régénère. Et puis l'air qui sort, qui va se mélanger avec l'air ambiant. Vous pouvez faire un avec ce souffle qui entre et qui sort, avec ce rythme qui est le vôtre ce soir. Et là non plus, il n'y a pas du tout à décider de respirer, juste puisque nous sommes des êtres vivants, ça respire en nous. Et laissez faire le mouvement, sans contrainte. Et puis peut-être que vous avez des pensées, des émotions, certaines choses qui vous submergent. Mais vous n'avez rien à y faire. C'est juste là. Pas besoin de juger, de corriger. Vous pouvez juste noter qu'il peut se passer plein de choses dans votre esprit, même dans votre corps. Vous pouvez entièrement vous autoriser à éprouver ce que vous éprouvez là maintenant, à penser ce que vous pensez là maintenant, sans rien rajouter de plus, sans faire d'histoire. Peut-être qu'il y a des choses qui vous dérangent, que vous avez une douleur dans le corps, quelque chose qui vous irrite. Mais là aussi, ne faites rien. Vous pouvez faire de l'espace pour cela aussi. Ce qui est là est là, il ne faut rien corriger. Soyez dans une grande joie ou complètement oppressé. Ce que vous vivez est ce que vous vivez juste là maintenant. Et c'est entièrement OK. Il n'y a strictement rien à faire d'autre que rester là, assis, immobile, respirant. Au cœur de son existence, le temps de cette pratique. Laissant tomber toutes les injonctions à être autrement. Et vous pouvez simplement goûter ce moment où il n'y a rien à faire. Peut-être c'est un peu déstabilisant parce que ça n'arrive pas souvent. Mais c'est aussi OK que ce soit un peu déstabilisant. Comme ça, en ne faisant rien, On se resynchronise à soi-même. On se réaccorde à ce qui est là pour nous. Vous pouvez entièrement laisser la chose se faire. En abandonnant tous les efforts. Là, comme vous faites, c'est absolument parfait. Il n'y a rien d'autre à faire. Peut-être que si l'une ou l'un d'entre vous a une ou l'autre question sur la pratique, surtout, n'hésitez pas. Souvent, on est parfois un petit peu intimidé, mais peut-être qu'il y a au moins 5 d'entre nous qui veulent poser la même question que vous, donc vous êtes vraiment les bienvenus. C'est toute l'idée de l'école, justement. Bonsoir, est-ce que vous pouvez juste me dire votre prénom? Bonsoir. Enchantée.
Qu'est-ce qu'on peut être?
Ben rien, rien là du coup. Mais tout le mouvement de la pratique, en tout cas comme celle-ci, c'est véritablement de trancher l'idée qu'il faut faire quelque chose pour changer la situation dans laquelle on est. Donc par exemple, je ne sais pas du tout comment c'était pour vous la pratique, peut-être qu'il y avait plein de pensées, beaucoup de choses, mais c'est au fond ça qu'il y a rencontré ce soir, disons. Puis il y a des pratiques où c'est plus brumeux, on a moins l'impression d'avoir des pensées, et là c'est ça qu'il faut rencontrer. Donc après, il y a d'autres types de pratiques de méditation guidée où on porte par exemple l'attention sur le souffle et on fait particulièrement attention à la différence entre l'absence d'esprit et la présence d'esprit. Donc par exemple, si vous pensez à ce que vous allez manger tout à l'heure ou ce que vous allez faire ce week-end, vous êtes parti dans toute une histoire. Puis à un moment donné, vous allez de nouveau être très présente. Peut-être vous l'avez senti même à certains moments dans la pratique, vous étiez un peu ailleurs, puis peut-être ma voix ou les rires des enfants vous fait revenir. Et au fond, dans la pratique, ce à quoi on porte l'attention, c'est la différence de tonalité ou d'ambiance qu'il y a entre les moments où on est parti dans nos pensées, etc. Et puis les moments où on est vraiment là. Et donc au fur et à mesure de la régularité de la pratique, on touche plus précisément la différence entre les deux. Et ici, dans la pratique Foutez-vous la paix, véritablement, on fait absolument rien. On regarde juste ce qui est là. Et donc c'est pour ça que ça peut avoir parfois un petit côté inconfortable, puisque parfois on rencontre des choses qui sont un peu inconfortables. Mais on ne bouge pas et on sent que c'est possible de ne pas bouger, de rester là. Est-ce que ça répond à votre question ? Sinon, vous pouvez préciser. Hein. Exactement. Ah oui, ça c'est, merci beaucoup pour la question. Pour ça, c'est toujours passionnant. C'est qu'effectivement, la pratique de la méditation, ce n'est pas du tout une pratique de relaxation. Dans le monde dans lequel on vit, la pratique de la relaxation est tout à fait formidable. Mais c'est juste pas ce qu'on fait ici. Donc on ne cherche absolument pas à se détendre, mais plutôt vraiment à rencontrer et à épouser ce qui se passe juste là maintenant. Et il peut y avoir un sens de détente après la pratique, mais parce qu'on a rencontré ce qui est là pour nous, et pas du tout parce qu'on a essayé de gérer toutes les pensées qui ne nous plaisaient pas, quoi. Parce que l'esprit est ainsi fait que l'esprit, c'est les pensées, c'est les émotions, c'est tous les événements mentaux qui peuvent nous traverser. Et on aurait beau essayer d'enlever les pensées, juste ça ne marche pas. C'est juste pas possible. Alors parfois, il y a des techniques de focalisation qui permettent de poser l'esprit, mais ce n'est pas du tout notre vision dans l'école, parce que des grandes pratiques de concentration comme ça, en fait, quand on passe la porte ici, il y a tout qui va vous revenir. Donc l'idée, c'est plutôt de comment est-ce qu'on rentre en rapport avec l'esprit tel qu'il est, pour qu'on en ait une connaissance un peu plus fine, justement, de comment les pensées arrivent, se développent, et puis s'épuisent, comment une pensée est peut-être liée avec une émotion. Ça, tout ça, on voit au fil de la pratique. On va regarder après plus précisément différentes choses. Donc, de manière pédagogique, il y a plusieurs sortes de méditations guidées, certaines qui sont plutôt axées sur les émotions, certaines plutôt axées sur le corps, certaines plutôt axées sur le souffle. Et donc voilà, ça, c'est à découvrir au fur et à mesure. Merci beaucoup pour la question. Bonsoir. Oh bah, est-ce qu'il y en a d'autres ?
Moi, la question porte sur la régularité de la pratique. Savoir que pendant 4 ans, j'en ai pas vécu les matins en quelques minutes, même parfois tous les soirs quelques minutes, et ça a changé pendant plein de choses dans ma vie, et puis brusquement, j'ai arrêté. Et maintenant, j'ai vraiment extrêmement beaucoup de mal à me mettre dans une pratique régulière, à me fixer un moment pour le même, etc. J'aimerais bien arriver à me fixer cette régularité. Je me demande comment d'autres font. Arriver à retrouver cette régularité. Parce que je me souviens, quand je faisais ça tous les jours, mes émotions négatives, elles étaient plus présentes comme maintenant. Ça vivait beaucoup de choses, ça faisait beaucoup de bien. Et maintenant, j'ai vraiment quitté au départ, parce que je ne pratique plus comme maintenant. Et je me disais, quand je retournais à ce temps-là de nuit, où c'était plus...
Il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a évidemment la question de la discipline. Et je pense que en s'obligeant à une discipline très stricte avec des objectifs, un peu de performance, tous les jours, 3 minutes, parce que ça va changer ma vie, etc. Je pense que ça, c'est un moyen un peu dangereux d'y aller par là, parce que toute l'idée, c'est justement de ne pas s'imposer une injonction encore supplémentaire. Donc je pense que là, le levier dans ce que j'entends, de ce que vous me dites, c'est que vous avez pu toucher que la pratique de la méditation, d'une manière ou d'une autre, apaisait quelque chose en vous. Et en fait, le meilleur levier, c'est de se rappeler, de se relier au fruit de la pratique qui était là pour vous, de se relier à son aspiration, en fait. Et peut-être justement laisser tomber complètement le « il faut que », etc. Et plutôt sentir quand le coussin, si vous méditez sur un coussin, ou quand la chaise vous appelle et vous dit « est-ce que tu ne viendrais pas méditer ?» et le faire à ce moment-là, vous voyez, quelque chose d'un peu plus doux. Après, ce qui est certain, c'est que comme c'est une pratique, la régularité de la pratique fait qu'il y a une transformation qui est à l'œuvre à hauteur de la pratique. Donc si on pratique une fois tous les mois, bon, bah, c'est bien parce qu'on garde un lien avec la pratique, mais au fond, il n'y a pas grand-chose qui se transforme, forcément. Après, il y a juste une petite chose que je voudrais dire, c'est que la pratique de la méditation ne gomme, alors peut-être c'était comme ça dans votre expérience, mais ne gomme pas les émotions négatives. Peut-être ça ouvre un autre rapport avec les émotions négatives. Enfin, en plus, je n'aime pas trop le terme négatif dans le sens où... voilà, on va dire peut-être les émotions qui nous semblent plus désagréables. Je te laisse faire. Je te laisse faire. Je dois parler ? Ok. peut-être justement, la difficulté, ça c'est tout un autre sujet et on fera ça sûrement à la rentrée, mais c'est de classer les émotions entre positifs, négatifs, agréables, désagréables. Dans la pratique de la méditation, il y a tout un apprivoisement des émotions plutôt comme ce qui rend notre existence très vivante. Donc voilà, ça je voulais juste dire ce petit point, parce que l'idée n'est pas d'arriver à un état un petit peu neutre comme ça qui en tout cas c'est pas la perspective dans laquelle on transmet la pratique dans l'école, mais en tout cas moi ce que je vous conseillerais c'est vraiment de vous relier à votre aspiration puis à ce que vous avez touché qui transformait en fait votre existence. Je pense que c'est le meilleur moyen de se rasseoir. Bon, mais peut-être je vais commencer Je vais passer au thème de la soirée. Si vous avez encore des questions après, vous serez évidemment les bienvenus. Donc le thème de la soirée, c'est la dimension d'amour dans la pleine présence. Donc la pratique que nous avons fait ici, c'est la pratique de pleine présence. C'est une des modalités de pleine présence. Et donc pour dire quelques mots de la dimension d'amour dans la pratique de pleine présence, peut-être qu'il faut d'abord que je vous dise quelques mots sur ce que c'est que cette pratique de pleine présence. Et donc à l'école de méditation, on a choisi de traduire mindfulness par pleine présence et non par pleine conscience, qui est au fond une traduction assez malheureuse de ce mot mindfulness, lorsque l'on sait véritablement ce que c'est que la conscience. Donc j'aimerais juste en dire quelques mots pour mettre un peu les choses au clair. Donc avoir conscience de quelque chose, c'est en fait se regarder faire ce quelque chose en même temps que nous le faisons. Donc je me regarde manger pendant que je mange, je me regarde marcher pendant que je marche, etc. Donc ça, on comprend ça facilement. Mais dès lors que nous devrions réellement pratiquer la pleine conscience, ça demanderait d'être entièrement conscient de tout ce que nous faisons lorsque nous le faisons. Et ça, j'ai un peu une mauvaise nouvelle pour vous, mais c'est juste humainement pas possible. Ce n'est pas possible d'être entièrement conscient à tout ce que nous faisons, car le champ d'expérience et de sensations, de perceptions, est beaucoup trop large que pour que ce soit entièrement pris par la conscience. Et donc il y a dans ce projet de pleine conscience quelque chose qui dépasse véritablement notre condition humaine. Parce que voilà, comme que ça nous plaise ou non, au fond, notre conscience ne saura jamais embrasser pleinement toute notre expérience. Donc je peux vous donner quelques exemples très très concrets, parce qu'on a l'impression comme ça qu'on peut être absolument conscient de tout. Mais en fait, bon, un exemple. Il y a quelques semaines, mon chien, tout au bout de sa laisse, est passé, je ne sais pas vraiment comment, au-dessus de la rampe d'escalier et est tombé au milieu de... Comment ça s'appelle le trou, quoi. La cage d'escalier, merci Karine. Et donc, J'ai senti l'attraction sous la laisse, j'ai eu le réflexe de serrer et d'assurer la prise. Mais évidemment, sans même réfléchir, parce que si j'avais dû à ce moment-là prendre conscience pleinement de ce qui se passait, c'est sûr qu'il se serait écrasé sur le sol. Bon, c'est qu'un exemple, il y en a d'autres. Par exemple, quand je nage, je ne peux pas prendre conscience en même temps de tous les gestes que je fais. Donc, je ne peux pas en même temps prendre conscience des mouvements avec mes jambes, en même temps prendre conscience du mouvement des bras, mettre ma tête, etc. Encore un autre exemple, puis après j'arrête, mais c'est quand même important. Quand je conduis, je suis extrêmement alerte au trafic, etc. Il y a mes pieds qui freinent, qui embrayent, etc. Mais il n'est absolument pas nécessaire que je prenne conscience de mes pieds qui sont en train d'embrayer. Ce serait même très dangereux, ça voudrait dire que je ne serais pas consciente du feu rouge, etc. Enfin bon, vous avez vu un peu le... Je crois que vous avez compris le point que j'essayais de montrer. Et c'est important de le montrer parce qu'en fait, méditer, c'est pas prendre conscience d'une chose, puis d'une chose, puis d'une chose, mais c'est véritablement faire un avec ce que l'on fait. Et donc, c'est s'oublier, c'est laisser passer la conscience un peu en retrait, entre guillemets, et faire un avec ce que l'on fait, sans cette médiation de la conscience, sans ce « je » qui dit « je me regarde en train de manger », etc. Et donc, je ne suis pas du tout en train de dire que tous ceux qui pratiquent la pleine conscience la pratiquent comme ça. Je suis en train de dire que c'est ce nom de pleine conscience qui pose un problème. Et ce n'est pas uniquement un problème de vocabulaire, parce qu'on pourrait dire « bon, elle chipote un peu, elle est prof de philo, elle aime bien chipoter avec les mots ». Mais en fait, non, parce que derrière, il y a un problème de vision même de ce qu'on entend par la méditation. Donc, penser qu'elle est un exercice de pleine conscience, ça nous mène droit à une injonction de plus, qui dirait, je n'arrive pas à être conscient de tout ce qui m'arrive, forcément, pour les raisons que je viens de dire. Il faudrait que j'arrive à développer ça. Comme je suis là maintenant, ben, ce n'est pas exactement... comme ça devrait, donc ça doit être amélioré, etc. Et donc on est déjà dans une vision où la pratique de la méditation est là pour changer ce que nous sommes. Et donc cette entente-là de la méditation est radicalement opposée à celle que nous défendons dans l'école. Parce que dès l'origine de cette pratique, elle a pour vocation d'entraîner le pratiquant à entrer en rapport à la réalité telle qu'elle est, donc c'est un peu ma réponse à votre question tout à l'heure, à faire un avec ce que nous faisons, en faisant, comme je vous le disais, passer la conscience à l'arrière-plan pour laisser la place, et c'est ça qui est véritablement intéressant et passionnant, pour laisser la place à un autre type de savoir, à un savoir sensible, complètement élargi. Un peu, on pourrait dire, comme si nous ouvrions nos antennes, en fait. Et nos antennes ne passent pas uniquement par la conscience. Donc, ce qu'on fait, on se pose, donc c'est ce qu'on a fait pendant toute la pratique tout à l'heure, et selon, comme je vous le disais, les différentes pratiques de méditation guidées, on pose notre attention sur le souffle, sur le corps, sur les perceptions sensorielles, sur l'esprit, et puis on va voir de manière plus précise et plus curieuse comment tout ça se monte pour nous au moment de la pratique. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va se pencher gentiment sur tel ou tel aspect du champ de notre expérience. Et nous nous posons donc comme ça, et en même temps, c'est là où je veux en venir, c'est qu'en même temps, on cultive une dimension d'accueil et d'ouverture à tout ce qui est. Donc il y a certains moments dans la pratique de méditation guidée tout à l'heure, je vous ai dit peut-être il y a quelque chose qui vous dérange, des émotions qui vous embête ou quelque chose dans votre cœur, de votre corps, ou peut-être votre cœur aussi, qui vous dérange. Mais l'idée, c'est que c'est OK, cela, on peut aussi ouvrir un espace pour cela. Et donc, dans la pratique de pleine présence, ce qu'on fait, c'est qu'on explore ce que c'est que la présence et ce que c'est que d'être présent. Certaines choses auxquelles on fait assez peu, finalement, attention dans notre vie de tous les jours. Et évidemment, il faut bien dire que ça ne se passe pas sans quelques obstacles. Parce qu'il peut arriver justement qu'on ait peur d'entrer comme ça, sans médiation, dans le réel. Parce que ce n'est pas nécessairement tout rose. Donc vous pouvez par exemple, tout à coup, être pris par un sentiment, une sensation de claustrophobie extrême, ou une crampe, ou une agitation, ou un ennui profond, enfin... Ce n'est pas l'extase que certains promettent, quoi. Peut-être que dans votre vie, il y a un parent malade, peut-être que un travail décevant, répétitif, enfin bon, voilà, une lassitude existentielle, enfin que sais-je. Et donc, il y a quelque chose qui est confrontant dans la pratique de la méditation parce qu'on se coltine au réel. Et hier, je suis prof et avec des élèves de 4e humanité, j'ai fait une pratique de méditation à leur demande. Et ils n'étaient que 15, que tous les autres n'avaient plus rien à faire, ils n'étaient pas là. Et donc, ça permet de faire certaines choses en petit groupe. Et donc, c'est comme il y en a un qui a dit « Ah, vous ne voulez pas, on essayerait bien, etc. » Ok. Il y en a deux d'entre eux, ils étaient bidonnés les 5 premières minutes, ils rigolaient, etc. Et puis au moment de... Donc pendant que je les guidais, à un moment donné, j'ai juste dit ça. J'ai dit, voilà, parfois on rigole parce qu'en fait, on est très mal à l'aise du silence, très mal à l'aise d'être immobile, très mal à l'aise de rencontrer son esprit, peut-être pour la première fois. Et c'est OK, quoi. Et alors là, c'était un peu un pari parce que je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Et comme par enchantement, pouf, c'est complètement arrêté. Donc, je me dis, peut-être ça a quand même mis des mots sur l'expérience qu'il faisait à ce moment-là, en fait. Et donc, pendant qu'on pratique, c'est tout ça que nous rencontrons. Et vraiment, le mouvement que nous faisons ou que nous apprenons à faire, hein, puisque c'est une pratique, donc on n'y est pas tout de suite, et on n'y est peut-être jamais, d'ailleurs, c'est ça qui est aussi passionnant, c'est que le mouvement qu'on apprend à faire, c'est d'épouser le présent tel qu'il est, juste là pour nous. Et cette difficulté d'épouser le présent tel qu'il est pour nous, il est déjà écrit dans les tout premiers sutras qui expliquent... Donc vous savez, la tradition bouddhiste est la tradition qui a le plus finement et précisément décrit ce que c'était que l'expérience méditative et le chemin méditatif. Et donc, déjà dans cette tradition, on explique bien que l'attention seule à ce qui est peut sembler un peu aride, un peu raide même quand c'est difficile, et peut amener un sentiment de peur ou d'isolement par exemple. Et c'est là qu'on est vraiment au cœur du thème du jour, parce que en plus de la dimension d'attention au cœur de la méditation, une autre dimension a été considérée comme absolument essentielle à la pratique, et c'est la dimension d'amour au cœur de la pratique. Et donc, il s'agit au fond, comme le dit souvent Fabrice Midal, des deux ailes d'un même oiseau. Donc on a d'un côté l'aile de l'attention et de l'autre côté l'aile de l'amour qui ne va pas l'un sans l'autre. Et ça veut dire que dans le mouvement de l'attention, il y a aussi un mouvement d'ouverture chaleureuse, spacieuse, accueillante pour tout ce qui est. Et c'est le sens même de ce que je disais juste précédemment quand je parlais d'épouser ce qui est. Donc on y prête attention, on s'y accorde. Le cœur, au fond, fait de la place pour tout ce qui arrive. Et ce qui est assez extraordinaire, et c'est un peu ce que j'ai essayé de souligner dans la pratique qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pour ça aussi aucun effort à faire. Ça se fait. Donc, ça fait partie intégrante de la pratique de la pleine présence. Alors, bien sûr, il y a des pratiques qu'on appelle d'amour bienveillant et qu'on pratique les derniers mercredis du mois ici avec les membres de l'école. Et ce sont des pratiques qui, pédagogiquement, mettent plus l'accent sur cette dimension d'amour au cœur de la pleine présence. Mais rien que dans la pratique que nous avons faite là tout à l'heure, réside aussi la dimension d'amour dans le même geste de cette pleine présence. Comment ça se fait? C'est assez simple. Plus vous portez attention à une chose, plus vous connaissez cette chose dans le détail, plus vous y revenez, plus vous vous liez à elle et plus vous l'aimez. Si vous plantez des fleurs ou des graines ou des choses comme ça, enfin si vous êtes... Je pensais ne pas du tout avoir, encore une petite anecdote, je ne pensais pas du tout avoir les mains vertes et il n'y a pas longtemps, on m'a offert un plant de tomates. Et je me suis dit, oulala, ça c'est le défi, il ne faut pas qu'il meure après 2 semaines. Bon. Et puis, j'ai commencé à porter beaucoup de soin à ce plant de tomates et étonnamment, je sens un élan pour voir ce qui se passe dans le détail, etc. puis de voir qu'elle se développe, etc. On sent un lien à partir du moment où on se soucie de ce à quoi, de ce à quoi on s'occupe. Bon, c'est un peu trivial, mais c'est simplement pour montrer que ce sur quoi nous portons notre attention de manière précise, régulière, attentive et chaleureuse, ben, nous créons un lien avec ça et au fond, on l'apprivoise. Et voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Puis après, je vous lirai un petit extrait avant la méditation silencieuse, pour un peu en donner la tonalité. Donc de nouveau, hein, sentez-vous vraiment libre et les bienvenus de poser des questions, parce que ça permet de rebondir si j'ai oublié des choses, etc. Oui, Laura ? Non. En fait, ce qui est, en fait.
Non.
En fait, ce qui est formidable dans ce que vous dites, c'est que c'est ce que vous décrivez là, c'est la pratique de la méditation. Ça veut dire que vous avez observé peut-être ce mouvement d'inquiétude ou d'angoisse, puis vous avez observé le jugement que vous aviez sur ce mouvement d'inquiétude et d'angoisse, vous avez vu l'esprit qui a relativisé les choses, puis l'esprit qui a dit qu'il faudrait être plus calme, etc. En fait, la pratique, c'est observer tout ce jeu de l'esprit et en laissant tomber, vouloir atteindre quoi que ce soit comme objectif, comme par exemple d'être calme, par exemple. Et donc, la pratique, c'est juste. La grande chance, c'est qu'on est immobile, assis et posé, et donc apparaissent des tas de choses qui n'apparaissent pas habituellement. Et donc là, c'est sûr qu'en ne bougeant pas, mais tout ça apparaît, les mouvements de votre esprit apparaissent de manière bien plus claire. Mais vous pouvez simplement être entièrement présent à ça et juste, effectivement, ne pas l'enrichir de plein de choses, quoi. Donc, par exemple, vous notez qu'il y a ce mouvement d'inquiétude, vous notez les jugements. Après, ce n'est pas nécessaire de juger le jugement, etc. Vous pouvez simplement revenir au souffle et puis c'est bon comme ça. Mais c'est vrai que le renversement, c'est que on peut entièrement laisser tomber cette volonté de vouloir être calme et apaisé et ne pas avoir d'inquiétude, etc. Le mouvement, c'est plutôt comment on apprivoise cette inquiétude, justement parce qu'on la regarde, justement parce qu'on voit quand elle naît, on voit si ça grossit, puis on voit si à un moment donné, quand on revient au souffle tout à coup, même sans vous en être rendu compte, ben, il n'y a plus. Et donc, c'est ça le mouvement que j'essayais de dire, c'est qu'il y a une connaissance bien plus précise de tous les phénomènes, toutes les expériences qui vous habitent, qui fait qu'au fond, vous en avez moins peur. Et ce n'est pas juste un exercice de style, hein. On fait ça ici sur le coussin, mais évidemment, l'idée, c'est quand même que dans la vie de tous les jours, il y ait des fruits qui arrivent. Et donc là, le fruit, en l'occurrence, ça veut dire que quand il y a des mouvements d'angoisse, de claustrophobie ou ce genre de choses dans la vie courante, ben, on en a moins peur aussi. Et on est plus prêt, il y a plus de courage, plus de confiance pour affronter tous ces mouvements de la vie, parce qu'on ne pourra pas l'enlever. Enfin, si on est d'une... Moi, je me pratique depuis plus de 20 ans. Si on a une petite tendance inquiète, ça ne s'en va pas. Hein. Enfin, je peux tout vous dire tout de suite. Mais après, il y a du jeu. C'est ça, oui. Il y a du jeu. On a moins peur de ça. Je dis, ah, mais voilà, ça y est. Bonjour, t'es de nouveau là. Enfin, je force un peu le trait. Hein. Mais c'est ça le mouvement, quoi, disons.
Oui. Tu dis, bon, on observe tout ce qui arrive. Et est-ce que c'est ça, entrer en rapport avec ?
Oui.
C'est juste prêter attention à ce qui se passe. Et c'est ça, entrer en rapport. C'est pas...
Non, c'est ça. Rien. Non, du tout. Alors, c'est autant de manières de dire les choses, hein, se relier à, entrer en rapport avec. Peut-être dans l'école, on va plus souvent dire se relier à, entrer en rapport avec que observer. Parce que observer. De nouveau, il y a un petit peu l'observateur conscient qui va regarder tout ce qui se passe un peu de haut. Ici, l'idée, c'est vraiment plutôt de rentrer dans la chair de ce qui arrive Et pour ça, l'écoute. Donc, si vous revenez, vous verrez qu'il y a une autre pratique où on commence par faire très attention à écouter, en fait, simplement. Et donc, juste, on sent bien qu'entrer en rapport avec les sons et les bruits ne demande rien, ne nous demande rien. Ils sont là. Et on peut juste y être peut-être pas un peu plus attentif qu'on ne le serait d'habitude. Et donc, c'est pareil. Ça répond à ta question ?
Oui, tout ça, c'est pas se mettre une certaine hauteur et gérer tout ça.
Non, justement, hein.
Voilà.
Justement. Pas ça, hein.
Ouais.
Ok.
Surtout quand. Se mettre comme dans le mot observer.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est bien se relier à ou être en rapport à. C'est pas mal.
Pour moi, se relier à, c'est. Il y a encore une action.
Oui, mais regarde par exemple, quand tu entends le bruit des enfants qu'on a entendu tout à l'heure, tu as un lien avec ce qui se passe à l'extérieur sans que tu aies à faire quoi que ce soit, simplement par la perception sensorielle de l'ouïe. Et tu es au monde. Et donc, parce qu'on pense que pour se relier aux choses, il faut faire quelque chose. Mais en fait, on est des êtres vivants. Donc, d'emblée, on est relié aux choses. Sauf qu'on oublie, on a l'impression qu'on est une île. Tout seul, séparé, et que ça marche comme ça. Ça marche pas. On est d'emblée relié. Et c'est aussi ça le mouvement qui s'ouvre avec la pratique, c'est qu'on se rend compte qu'on est d'emblée relié aux situations. Si tu rentres dans, par exemple, tu rentres dans un bureau où il vient d'y avoir une dispute, sans que tu aies à faire quoi que ce soit, d'emblée tu sens qu'il y a de la tension entre les personnes qui sont là, etc. Tu n'as besoin de rien faire pour ça. D'emblée tu es relié à ça. Et donc, et d'emblée, tu vas le sentir. C'est ça, en fait, cette espèce d'au-delà de la conscience, c'est affiner une sensibilité, en fait, pour le dire encore d'une autre manière, quoi. Une sensibilité qui va bien au-delà que tous les sens qu'on énumère habituellement, quoi. Un sentir. Oui, on pourrait dire comme ça aussi, mais sans qu'on parte dans des histoires d'intuition parabolique, ou, enfin, on se comprend, mais oui, bien sûr. Un sentir particulier. Ah, peut-être, oui. Non, mais tout le monde peut poser des questions, mais allez-y.
Mais du coup, dans la pratique de la méditation, on affine cette attention, effectivement, mais je ne sais pas comment le formuler sans avoir l'air un peu. Du coup, ça va nous faire aimer plus quoi, les émotions ou le fait d'être présent. J'ai un peu du mal à voir où ça va mener, enfin je sais qu'il n'y a pas d'objectif.
Oui, oui.
Dans la pratique, le lien entre l'attention et l'amour, vous mettez comment ?
Je pense qu'il faut se déplacer un peu du sens d'amour sentimental habituel. Ici, c'est le sens de. C'est vraiment. On pourrait dire qu'il y a plusieurs qualités qu'on pourrait retrouver. De cet amour bienveillant, pour l'appeler comme ça. C'est une qualité de chaleur, une qualité d'accueil et une qualité d'espace, en fait. Et donc, pour vous donner un exemple, hein, s'il n'y avait que cette dimension d'attention, par exemple, disons qu'on porte l'attention sur le souffle, ça va être inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, les pensées nous emmènent ailleurs, inspire, expire, inspire, quelque chose un peu aride, comme je disais. La dimension d'amour là-dedans, c'est ouvrir l'espace pour avoir la curiosité pour comment est le souffle, pour dire oui au souffle comme il est. Donc, par exemple, si c'est un souffle qui est très court, qui est, je sais pas moi, crispé, etc., on peut ouvrir l'espace pour rencontrer, en fait, la manière dont est le souffle. Et donc l'amour, là, c'est... on pourrait dire que c'est un sens d'accueil chaleureux pour ce qui, pour l'expérience qui est la vôtre. Ben, en fait, c'est pas tellement basé sur le jugement, c'est plutôt basé sur l'expérience très phénoménologique de ce que c'est que l'amour. Donc, dans les pratiques dans les pratiques guidées d'amour bienveillant, on évoque, par exemple, un moment où on s'est véritablement senti aimé. Et donc, on évoque cette image, etc., parmi d'autres, hein, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Et on ne regarde pas du tout l'aspect psychologique du truc, etc., mais c'est plutôt les sensations corporelles que ça, qui sont là. Et les sensations corporelles qui sont là, c'est les sensations plutôt de chaleur, d'accueil, d'ouverture. Voilà, si on est avec son enfant qui veut raconter quelque chose, ben on peut sentir qu'il y a un sens d'ouverture, qu'on veut accueillir ce qu'il a à nous dire, etc. Et donc c'est plutôt une description du phénomène de ce que c'est que d'éprouver cet amour, disons. C'est plutôt ça qu'un jugement. C'est pas qu'on décide que c'est chaleureux, c'est rarement glacial quand même. Non mais c'est, vous voyez, c'est plutôt ça. Mais bon, ça c'est des choses que... Ici, ce qui était intéressant de montrer, c'était vraiment que sans rien avoir à faire, déjà rien que parce qu'on regarde de manière accueillante ce qui nous arrive, il y a cette dimension d'amour dans la pratique. Et puis après, c'est vrai qu'on fait ces pratiques-là les mercredis, puis les dimanches aussi avec les membres. Et il y a des enseignements qui vont aussi avec ça pour mieux comprendre et qui répondent à toutes ces questions. Parce que c'est vrai que c'est un thème qui suscite beaucoup de questions, etc., dans lequel il faut aller plus avant aussi, quoi. Je vous en prie.
Moi, la question que j'avais rejoint un peu la question précédente. C'est-à-dire que c'était pour comprendre aussi les sentiments avant, mais si j'ai bien compris, c'est déjà pouvoir être une relation bienveillante par rapport à soi-même. Pas forcément dans un sens d'amour d'autrui ou de quelqu'un d'autre, de manière sentimentale, mais plus par rapport à soi-même.
Parfait. C'est tâché ça. J'aurais dû commencer par ça. Merci beaucoup. Ce sera la dernière. Oui, donc madame disait que ce n'était pas dans un sens d'amour sentimental ou d'amour à autrui, mais plutôt un sens de mouvement de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Et j'ai dit que c'était ça.
Gaël, ça peut parler là de soi, mais aussi d'un amour vis-à-vis d'une personne, de tout ce qui nous entoure, mais ça doit partir d'une bienveillance. Enfin, je ne crois pas qu'on peut être. Avoir cette bienveillance vis-à-vis de l'extérieur sans avoir cette
Si, bien sûr, c'était pour répondre à la question, mais disons que, effectivement, dans toutes les pratiques, souvent dans les pratiques d'amour bienveillant, on commence effectivement par toucher son propre cœur, et après, on va évidemment. Évidemment, au-delà, bien entendu, il n'y a aucune restriction. Disons que la difficulté quand on parle de ça, et d'ailleurs on le voit, c'est de tomber dans l'interprétation sentimentale ou amoureuse de l'amour, ce qui réduit fort en fait l'expérience, quoi. Donc oui, bien sûr, c'est comme vous dites. Mathilde, et puis après Jeanne, et puis je pense qu'on arrêtera parce qu'il faut qu'on pratique encore un peu. Hein.
Je continue sur la lancée. Et c'est là que tu as envoyé, quand tu as parlé, dans mes souvenirs, quand j'ai mis sur l'amour en parlant de deux ailes, avec présence et amour qui vivent ensemble. Et je me disais, mais du coup, dans ce contexte-là, est-ce que finalement c'est fait d'aimer, pas dans le sens habituel, mais pas dans le sens classique, mais d'avoir cet élan de bienveillance pour cette peur qu'on a, plus que pour le vide, mais pour la peur qu'on a du vide. Mm-hmm. Enfin, c'est un peu ça que je voulais être sûre.
Oui, c'est vraiment ça.
D'accord.
Oui, c'est vraiment, c'est ça le lien en fait. Dans la tradition, on dit justement que, enfin ça c'est pour la petite histoire, mais que en transmettant la méditation à ses élèves, le Bouddha a d'abord transmis la pratique de l'attention, sans la dimension d'amour. Et puis ils devenaient tous très peureux, ils avaient beaucoup de mal à échanger entre eux, etc. Et il s'est dit que là, il y avait véritablement un problème qui se passait, parce que si c'était juste l'attention très précise, en fait, ça crispe un peu tout le monde, quoi. Et donc, la dimension d'amour vient ouvrir, donner de l'espace, et surtout beaucoup de tendresse, en fait, pour tout ce qui peut arriver dans la pratique. Et donc, c'est ça le lien, en fait. On pourrait dire tendresse, en fait. Peut-être que ça nous poserait moins de difficultés. On en a parlé la semaine dernière, mais c'est comment, au fond, on pose un regard tendre sur ce qui nous arrive et sur notre expérience, sans se juger durement, ce qu'on fait la plupart du temps, quoi.
Merci.
J'en prie. Ça rajoute un maillon au raisonnement. Jeanne, tu as une question ?
Moi, quand tu parles d'amour bienveillant, je ne pense pas du tout à la chaleur ou quoi que ce soit, mais plus à de la douceur, mais ça rejoint tout à fait la tendresse. Et c'est marrant parce que chez moi, ce n'est pas spécialement si chaud, même. C'est même. Ouais, c'est un peu doux, quoi. Mais. J'ai noté le mouvement qu'on apprend à faire, c'est d'épouser le présent tel qu'il est pour nous. Et aucun effort à faire, ça se fait. Et en fait, en entendant ces deux phrases-là dont tu parlais pour la présence, j'entends que c'est dans de douceur par rapport à juste ce qui arrive. Et du coup, ma question, ça va.
Mais oui, c'est toute la difficulté d'essayer de pointer des expériences, parce que l'expérience est toujours singulière, donc il pourrait très bien, tu pourrais avoir un sentiment de fraîcheur aussi. Enfin, moi je peux pas me coller, heureusement, me coller à ce que vous expérimentez, donc c'est pour ça que on essaye de dire plusieurs modalités de choses, et puis vous voyez ce qui parle pour vous. Donc là, si c'est douceur ou tendresse qui parle le plus, c'est parfait. C'est plutôt fraîcheur que chaleur brûlante. Enfin, c'est bien aussi, c'est cette son expérience. Tant que tu pointes le phénomène à partir de ce que toi tu vis, c'est... Enfin, je vois bien c'est ce que tu dis, c'est ça. Je réponds à ta question ou pas? Parce que... Ok, parfait. Alors, s'il n'y a plus de questions urgentes, nous allons repratiquer. Et je me suis dit que j'allais vous lire un tout petit extrait pour donner la tonalité de la pratique. Donc là, maintenant, c'est une pratique silencieuse, donc elle est plus guidée. Pendant que je lis peut-être, et puis après, ouais. Et donc l'invitation est la même que pendant l'invitation guidée, plutôt foutez-vous la paix, ne faites rien. Et donc j'ai choisi deux petits extraits du Petit Prince, pas nécessairement ceux qu'on les connaît le plus, parce que dans l'école, vous voyez poésie, philosophie, présence, c'est trois mots qui sont importants dans l'école, parce qu'on utilise beaucoup le langage poétique aussi pour pointer... ce que c'est que l'expérience méditative. Et je trouvais que cela permettait de dire quelque chose de cette attention tendre pour une chose. Donc voilà. « Va revoir les roses, dit le renard. tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose, vous n'êtes rien encore, » leur dit-il. « Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard, ce n'était qu'un renard semblable aux 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belles, mais vous êtes vides, » leur dit-il encore. « On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire, croirait qu'elle vous ressemble. » Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les deux ou trois pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose importante. « C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, » fit le petit prince, afin de se souvenir. « Les hommes ont oublié cette vérité, » dit le renard, « mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. »« Je suis responsable de ma rose, » répéta le petit prince, afin de se souvenir. Comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais émue. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'eût rien de plus fragile sur la terre. Je regardais, à la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais, ce que je vois là n'est qu'une écorce. Le plus important est invisible. Comme ses lèvres entrouvertes ébauchaient un demi-sourire, je me dis encore, ce qui me meut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Et je le devinais plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes. Un coup de vent peut les éteindre.